messages un petit peu selon la méthode de son choix. Moi, ce matin, je vais vous proposer un parcours assez extraordinaire et bien encourageant, et où nous, en fait, ça sera tout au long de ce temps, ça sera un temps d'adoration. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes contrarié? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que vous êtes paisible? Ou encore, est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous êtes fatigué ou en pleine forme? Alors, il y a une chose qui est assez sûre, est-ce que vous êtes un peu assommé par la chaleur? Eh bien, il n'y a rien de mieux que parfois de changer un peu d'air. Et ce matin, j'aimerais vous proposer justement d'aller dans un lieu riche en émotions et un lieu où l'air est pur. Un lieu où on peut entendre des éclairs et du tonnerre. Je donne des indices. Un lieu dont le sol ressemble à du verre. Un lieu où l'on peut voir des arcs-en-ciel. Alors vous avez compris avec ces indices que ce lieu où j'aimerais vous emmener, c'est le ciel. Alors, si vous êtes bien assis, on va pouvoir y aller. Je plaisante à moitié, bien sûr, mais cela est déjà arrivé à quelqu'un de célèbre. Alors, ce n'est pas Pierre, dont Jérémie nous a déjà résumé la vie. Ce n'est pas Paul, dont Philippe nous avait décrit la conversion. Ce matin, j'aimerais qu'on parle ensemble de Jean. Jean, le disciple de Jésus, celui qui est notamment l'auteur du livre de l'Apocalypse. Et j'aimerais vous proposer de survoler ensemble Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Donc deux chapitres de l'Apocalypse. C'est un petit peu ambitieux, mais j'espère que vous serez aussi nombreux à écouter au début qu'à la fin. Et vous m'arrêtez si jamais c'est vraiment pas clair, mais vous allez voir que c'est deux passages que je trouve extraordinaires, qui sont vraiment encourageants. Je précise que pour préparer ce survol, je me suis appuyé sur des cours en ligne qui sont proposés par Sylvain Romerowski pour l'Institut biblique de Nogent. Et donc, il propose quatre cours sur Apocalypse 4, 5, 6, 7, et c'est juste énorme. Je vous donnerai les références si vous le souhaitez. Alors, juste comme prérequis, j'aimerais vous encourager à voir votre Bible avec vous pour suivre. Je vais pas projeter les versets sur l'écran. Y a beaucoup de versets à lire, donc je vais les lire au fur et à mesure, et puis vous pouvez, comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, mais suivre dans votre Bible. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Dans les chapitres précédents, Jean a eu des informations à transmettre à des églises, à cette église. Et là, après le chapitre 4, c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre dans le livre. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'il s'agit d'un changement de perspective. Une porte était ouverte dans le ciel, et voilà que Jean est invité à monter dans le ciel, à passer par cette porte pour voir la situation du monde d'un autre œil. Et alors, ce détail, il est énorme quand on sait le contexte dans lequel Jean écrit l'Apocalypse. Lui-même est prisonnier sur une île. Parce que, à cause de sa foi. Et la raison de sa condamnation, c'est qu'en fait, l'empereur romain Domitien, a mis en place un culte de sa personne. Il désire être adoré comme un dieu, comme d'autres dieux dans le panthéon romain de l'époque, et il souhaite qu'on l'appelle Dominus et Deus, c'est-à-dire le Seigneur, le Maître et le Dieu. Et dans ce contexte, vous comprenez que ça pose un souci aux chrétiens qui ne reconnaissent que comme Dominus et Deus, que comme maître et Dieu, comme Seigneur et Dieu, eh bien, Jésus-Christ. Il y a donc une période de persécution qui s'appesantit sur les chrétiens, alors qui participe d'une politique plus générale de cet empereur pour asseoir son pouvoir, et qui explique que Jean a besoin de changer de perspective. Pour lui, où cette porte ouverte dans le ciel, l'occasion de monter au ciel et de voir les choses d'un autre point de vue, mais ça a dû être d'un encouragement, mais complètement hallucinant dans sa situation. Et bien sûr, le parallèle, c'est que nous avons besoin aussi, bien souvent, de changer de perspective. Je ne sais pas si comment vous avez suivi l'actualité pendant la période de confinement. Moi, j'allume pas la télé, donc j'ai surtout évité de regarder BFM TV, etc. Et même en voyant parfois 10 secondes d'image, ça me faisait trembler comme ça, tellement c'était stressant. J'ai lu un petit peu l'actualité dans le journal, dans des journaux français, pour voir un petit peu ce qui se passait par rapport au virus, etc. Et c'était pareil, assez angoissant. Et puis, il se trouve que je suis allé voir dans des journaux étrangers, tout simplement des journaux suisses, pour voir comment l'actualité était traitée en Suisse. Et en fait, ce simple changement de perspective, ce simple changement d'angle, pour voir de quelle manière la situation était abordée, de voir que la situation n'était pas abordée de la même manière en Suisse qu'en France, et ben c'était une manière de faire, pour moi, rebaisser la pression. Parfois, changer de perspective sur un problème, prendre du recul, avoir des avis complémentaires, eh bien, c'est une solution extra. Je vous propose ce matin, comme Jean l'a fait, de changer de perspective quelques instants. Je poursuis ma lecture dans l'Apocalypse et au verset 2, je lis: Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le nom de la personne ne nous est pas donné. On sait qu'il s'agit de quelqu'un qui a une position royale, assis sur un trône. On sait que cette personne est tellement exceptionnelle que pour la décrire, il y a besoin de faire référence à des pierres précieuses. Souvent, lorsqu'on décrit un roi, on décrit justement les pierres précieuses qu'il a à la main, qu'il a autour du cou, qu'il a sur sa couronne. Mais là, c'est carrément la personne elle-même qui est décrite à l'aide de pierres précieuses. Donc, c'est un roi d'une importance énorme. Et on peut même dire que cette personne est elle-même une pierre précieuse. Alors, il y a d'autres indices qu'on verra par la suite qui nous révèlent qui est cette personne assise sur le trône, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a d'autres personnages dans ce passage. Au verset 4, il nous est dit qu'autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Alors, ces 24 anciens peuvent aussi être appelés parfois 24 vieillards, ils peuvent être aussi appelés littéralement 24 responsables. Ce sont des responsables du peuple de Dieu. C'est intéressant, ils se trouvent aussi sur des trônes, donc ils règnent aussi avec cette personne qui est décrite dans les versets précédents. Il y a au verset 5 mention de sept esprits. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Précision utile sur cette expression, Dieu n'a qu'un seul esprit. Ici, les sept esprits de Dieu dont il est question, c'est une image pour expliquer la présence de Dieu dans chacune des sept églises qui a été décrite dans les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse. Dieu est présent dans chacune de ces églises. 7, c'est aussi un chiffre symbolique. et donc qui représente la perfection, et Dieu est donc présent de manière parfaite et certaine et agit par son esprit dans chacune de ces églises. Et c'est la même chose dans notre église. Bon, vous avez remarqué, je vous ai proposé de chanter le chant Ensemble, nous sommes réunis. Bien sûr, il y a un côté un petit peu étonnant à chanter cela alors qu'on n'est pas réunis physiquement. On est quand même réunis, voilà, dans une salle virtuelle, etc. Mais la réalité, c'est que même si on ne peut pas encore se retrouver dans la salle de l'Église, l'Église continue et l'Esprit de Dieu continue à prendre soin de nous et à prendre soin de notre Église, parce que c'est son Église. Il y a d'autres personnages qui sont décrits ensuite, ce sont les quatre êtres vivants. Je lis à partir du verset 6 cette description assez étonnante. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Sans rentrer dans les détails techniques de ce passage, j'aimerais attirer votre attention sur ces quatre êtres vivants, le lion, l'aigle, le taureau et l'être humain. Ce sont des symboles qui ont chacun une signification. Le lion, facile, c'est le roi des animaux sauvages. Le lion est utilisé de manière très fréquente comme symbole royal. L'aigle est parfois aussi employé comme un symbole royal. Et on pourrait citer de nombreux cas de souverains qui ont utilisé ce symbole royal. L'aigle, c'est le roi des airs. Le taureau, c'est le roi des animaux domestiques, la force brute. Et l'être humain, c'est le symbole de l'homme et d'un être responsable. Qui participent aussi au bonheur de la création. Donc ces quatre animaux sont des symboles de la création dans ce qu'elle a de plus excellent. Et ce qui est énorme, c'est que ces quatre animaux affirment, verset 11, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Ces quatre êtres vivants qui symbolisent la création louent et adorent celui qui est assis sur le trône et dont le nom apparaît enfin au verset 11, notre Seigneur et notre Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Ce roi qui est assis sur ce trône, c'est le Créateur, c'est Dieu le Créateur. Et c'est assez amusant de voir que dans l'Antiquité, très souvent, les forces de la nature, les animaux, les éléments, etc., étaient divinisés. Mais ici, on voit que est célébré celui qui est au-dessus de toute créature. Il est appelé le Seigneur et le Dieu. C'est la création qui reconnaît qu'il y a un Dieu au-dessus de toute chose. Et ce Dieu est saint, saint, saint. C'est le superlatif. On lui doit notre respect, on lui doit notre adoration. Et alors, je vous ai donc décrit ce trône, je vous ai décrit ces vieillards qui sont là, ces représentants du peuple qui sont là, ces êtres vivants qui sont aussi présents dans ce lieu. Et versets 9 à 11, c'est extraordinaire de voir que tous ensemble prennent la parole pour adorer Dieu. C'est comme un énorme chœur, comme une célébration. Énorme, où tout le monde descendrait dans la rue pour non pas manifester, mais pour chanter et louer Dieu. Je lis les versets 9 et 10. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant Tu es digne, notre
Et
Seigneur.
à midi, à 1 h, à midi,
Ah, alors, il y a
avec
ton micro qui
partie.
est. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Vous pouvez relire tranquillement pour vous ce chapitre 4, mais il y a une chose qui est incroyable, c'est la manière dont l'ensemble des personnes qui sont présentes dans ce psaume se rejoignent et finissent par exprimer tous ensemble d'un seul cœur, comme une foule immense, une adoration envers le Dieu créateur. Quelque chose d'un petit peu amusant et en même temps très courageux de la part de Jean, puisqu'il souligne verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Et justement, qui voulait se faire appeler Seigneur et Dieu, Seigneur et Maître? C'était justement l'empereur romain. Et Jean, en fait, en relatant cette vision, rappelle à quel point, en tant que chrétien, nous n'avons qu'un seul chrétien et maître. Et il rappelle aussi aux chrétiens de son temps à quel point ils doivent prendre courage et n'adorer qu'un seul Seigneur et maître. Je vous propose de poursuivre par un temps de prière libre et d'adorer, comme on l'a vu dans cet Apocalypse 4, ce Dieu créateur qui est le Seigneur et le Maître et qui mérite toute notre adoration au-dessus de toute créature. Je vais prier. Seigneur, merci de pouvoir être dans ta présence ce matin, que nous soyons réunis physiquement ou à distance, nous restons ton Église. Et nous croyons que ton esprit est au milieu de nous. Merci Seigneur de pouvoir changer de perspective ce matin et de pouvoir passer un moment dans ta présence et de pouvoir te souvenir que tu es le Créateur, le Seigneur, le Maître, celui qui domine toutes choses et qui mérite toute notre adoration. Merci pour ces instants. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Voilà, je vais poursuivre ce temps de culte. Donc, il y aura un deuxième temps de prière tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et on vient de parcourir Apocalypse 4, dans lequel on voit qu'il s'agit de célébrer le Dieu créateur. Et j'aimerais maintenant vous proposer de parcourir Apocalypse 5, où il y a une légère inflexion. Dans Apocalypse 5, vous allez voir que l'objectif, c'est d'adorer l'agneau. Alors, de manière un petit peu paradoxale d'ailleurs, puisqu'il y a une astuce au début assez amusante. Dans Apocalypse 5, dans les premiers versets, il est question d'ouvrir un livre qui est scellé. Et Jean est déçu parce que personne ne peut ouvrir ce livre. Personne n'est digne de pouvoir ouvrir le sceau de ce livre. Et voilà que, au verset 5, l'un des anciens prend la parole. Et dit à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Le lion de la tribu de Juda, c'est une expression qui fait référence au Messie, tel qu'il était annoncé dans l'Ancien Testament. En même temps, un lion, comme on l'a vu au chapitre 4, c'est un animal qui symbolise la royauté. Il s'agit donc du roi Messie. Or, il se trouve que ce lion de la tribu de Juda est celui qui remplit les conditions pour pouvoir ouvrir le livre. Dans les versets précédents, on voit que personne ne remplit ces conditions. Seul le lion de la tribu de Juda peut remplir cette condition. À quoi donc s'attend Jean? Il s'attend à ce qu'apparaisse devant lui un lion. C'est ce que l'ancien lui dit. Mais au verset 6, puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice avec sept cornes, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On parle à Jean d'un lion et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un agneau. C'est quand même étonnant. Il se trouve que ce paradoxe est hyper intéressant parce qu'il montre à quel point Jésus-Christ est celui qui remplit toutes les conditions pour ouvrir le livre, condition parce que c'est lui le Messie, c'est le roi Messie, condition parce que c'est aussi l'agneau, et un agneau spécial parce que Jean nous donne quatre caractéristiques de cet agneau. Et ce sont quatre caractéristiques qui sont fondamentales pour comprendre l'œuvre de cet agneau qui est Christ. Alors vous allez voir pourquoi on peut arriver à cette déduction assez facilement. Il est question ici d'un agneau qui se tient debout. Il est question d'un agneau offert en sacrifice ou encore égorgé. Il est question d'un agneau dont les sept esprits sont envoyés par toute la terre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je reprends dans l'ordre. D'abord, il est question d'un agneau offert en sacrifice. C'est en effet par sa mort que Christ a vaincu. C'est par sa mort que Christ a remporté la victoire sur toutes les dominations. Christ est donc bien le Sauveur. Cet agneau, il est décrit comme étant debout. Pourquoi ? Parce que Christ est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et il est décrit comme étant dans le trône de Dieu. Donc, c'est l'agneau qui est debout et qui règne avec Dieu. Il est question aussi de sept esprits qui sont envoyés par toute la terre et qui représentent, comme on l'a dit auparavant, l'Esprit de Dieu qui est envoyé dans les églises. C'est cet esprit envoyé par toute la terre nous rappelle ce qu'il s'est passé à la Pentecôte lorsque Christ a envoyé son esprit sur les apôtres et donc sur toutes les églises. On voit donc que cet agneau, par toutes ses facettes, représente l'œuvre de Christ, de son sacrifice à la croix jusqu'à son intronisation à la droite du Père. Et c'est assez extraordinaire puisque c'est quelque chose qui nous encourage fortement et qui nous rappelle à quel point c'est par sa mort que Christ a remporté la victoire et qu'aujourd'hui, il est celui qui règne avec Dieu. Il y a un autre aspect qui est intéressant de voir et dans ce livre, c'est que il y a mention d'un livre qui est scellé, mais il n'est pas mention du contenu de ce livre. Et jamais dans l'Apocalypse, par la suite, on ne sait ce qui est écrit dans ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le contenu du livre en soi n'est pas l'objet de ce qui intéresse Jean. Ce qui intéresse Jean, c'est qui est la personne qui soit digne d'ouvrir ce livre. Et en fait, toutes les descriptions qu'ils nous ont données dans Apocalypse 5 et puis par la suite aussi sont là pour glorifier ce lion, cet agneau, cette personne qui est digne d'ouvrir le livre. Et c'est important d'avoir cela en tête aussi pour nous-mêmes quand on lit la parole ou même quand on analyse notre vie et les difficultés pour qu'on peut reconnaître ou les réussites qu'on peut avoir. Eh bien, de garder cette perspective de savoir qu'est-ce qui est important dans tout ce que je vis, qu'est-ce qui est important dans tout ce que je lis, c'est de découvrir l'œuvre de Christ, de découvrir comment Christ se révèle à moi par la parole et se révèle à moi à travers les circonstances dans lesquelles je suis et que je suis en train de vivre. La réponse n'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose dont on peut parler au Seigneur et qui peut nous aider pour savoir prendre justement une nouvelle perspective. Vous voyez que ce souvenir de cet agneau égorgé, de ce souvenir de cet agneau qui a été intronisé auprès de Dieu, qui est debout, qui est ressuscité, qui a envoyé son esprit à la Pentecôte, c'est aussi un rappel qui irait bien pour un temps de scène, de se souvenir cette œuvre incroyable qui nous libère et qui nous donne la possibilité, nous aussi, d'espérer être un jour assis sur ses trônes et de régner avec lui. J'aimerais poursuivre en lisant les versets 8 à 10 qui disent ceci. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Cette description nous amène à un autre parallèle. En effet, il est question ici d'un agneau dont le sang a été versé. Il est question d'une communauté de rois et de prêtres. Il est question aussi, juste après, d'un cantique nouveau qui est adressé à cet agneau. Ces détails nous amènent à faire le parallèle avec ce qu'il s'est passé dans le livre de l'Exode. Lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, eh bien, dans la nuit de leur départ, ils offrent un agneau en sacrifice, l'agneau pascal, et le sang les protège de l'ange dévastateur. Par la suite, lorsqu'ils arrivent, commencent leur périple dans le désert, ils sont appelés à devenir une communauté de rois et de prêtres. On voit ça dans Exode 19. Et lorsqu'ils passent la mer des roseaux, lorsqu'ils la traversent à sec et qu'ils sont enfin hors de portée des Égyptiens, eh bien Moïse adresse spontanément un cantique nouveau, un cantique qu'on appelle le cantique de Moïse, pour célébrer la libération d'Israël. Et il se trouve que dans Ésaïe, il est question aussi d'un nouvel exode à venir. Et ce que nous décrit ici dans Apocalypse 5, versets 8 à 10, Jean, c'est cet aspect de ce projet extraordinaire de Dieu de proposer un nouvel exode, comme de proposer un nouveau Moïse, comme de proposer un nouveau cantique, comme de proposer une nouvelle alliance. Et ce qui est extraordinaire et que je trouve vraiment encourageant, c'est que si dans l'Exode, il s'agissait de mettre cela en place pour un peuple particulier, ici il est dit que c'est pour des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est un message qui s'adresse au monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ancienne alliance, eh bien, il était question d'une alliance, voilà, entre Dieu et son peuple. Ici, il s'agit d'une alliance entre Dieu et l'ensemble des peuples de la terre. Et cette alliance, elle est comme l'ancienne alliance était écrite sur la table de la loi. Cette alliance, elle est certainement écrite dans ce livre dont on ne connaît pas vraiment le contenu. Ce livre, c'est l'Etzetso, c'est certainement le traité de la nouvelle alliance. Et qui est le seul qui a le droit d'ouvrir ce livre et qui est donc le médiateur entre nous et cette alliance? Eh bien, c'est Christ, c'est lui l'agneau qui peut ouvrir le livre. La nouvelle alliance, elle est donc basée sur l'œuvre de Christ. Mais ça va, ce texte d'Apocalypse, il va encore plus loin que cela. Cette nouvelle alliance, elle n'est pas seulement avec nous, elle est aussi une nouvelle alliance avec la création. Et c'est une alliance qui concerne l'ensemble de la création. On voit que dans ce texte, les quatre êtres vivants qui représentent la création vont aussi célébrer l'agneau pour cette alliance. On voit même que, d'ailleurs, il y a d'autres passages dans les Écritures qui parlent de cette création qui aspire à son renouvellement, à sa libération, etc. Et elle est concernée aussi par ce changement de la matrice et de la relation avec Dieu. Même les anges adorent l'agneau. Après les 24 représentants du peuple de Dieu, les quatre êtres vivants, toutes les créatures, le cœur continue de s'élargir. Et au verset 11, on voit que les anges se joignent aussi à cette adoration. Je vais lire les versets 11 à 14. « Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, sous la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les quatre êtres vivants répondaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. cette conclusion du chapitre 5, elle est formidable, puisque désormais, ce n'est pas seulement le Dieu créateur qui est adoré, ce n'est pas seulement l'agneau qui est adoré, mais l'ensemble des personnes présentes se réunissent pour adorer à la fois le Dieu créateur et à la fois l'agneau. Et cela souligne aussi à quel point l'agneau est bien divin, l'agneau est Christ et l'agneau est Dieu. On est donc, par ces deux passages, encouragé à adorer le Dieu créateur qui règne souverainement sur l'univers, mais on est aussi encouragé à adorer l'agneau qui a vaincu, qui a racheté des hommes et des femmes de tout peuple, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et qui donc les protège et les garde et les conduit à une nouvelle terre promise. Même si ce que nous vivons en ce moment, c'est galère, même si ce que nous vivons en ce moment, c'est compliqué, et ça nous plonge dans une solitude et dans le manque de pouvoir se voir et s'encourager ensemble à l'Église, la promesse est que Dieu continue à prendre soin de nous, nous garde, et continue à nous conduire vers une nouvelle terre promise. Et la promesse extraordinaire, c'est que non seulement on sera pour toujours ensemble au ciel, mais en plus, il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de virus, on sera sans maladie. Dieu, dans ce passage, nous donne la certitude qu'il n'abandonne pas les membres de son peuple, quelles que soient les circonstances. Imaginez ces chrétiens du premier siècle qui sont soumis à cette pression sociale et à cette persécution qui font que s'ils n'adorent pas l'empereur comme un dieu et un maître, ils peuvent avoir des problèmes. Imaginez l'encouragement qu'a pu être ce passage pour ces chrétiens du premier siècle.